De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, si ce n'était une comédie qu'on avait manqué, eh bien tous les films dont nous allons parler aujourd'hui sont en salle depuis le 7 novembre. L'automne réserve toujours de belles sorties, en tout cas nombreuses, mais pas toujours des bons films, n'est-ce pas Manu?
Ah non, là j'ai pas été très gâté. Hein. Donc je vous parlerai d'un film catastrophe, Kursk, et une comédie Chacun pour tous. Alors les deux films ont deux points communs, non seulement ils sont adaptés de faits réels, mais en plus ils se situent en l'an 2000.
Ah. Eh bien, Marine, qui n'est pas avec nous, a quand même enregistré une chronique, celle de Un amour impossible, de Catherine Corsini, et on écoutera Catherine Corsini parce qu'elle a pu bien rencontrer la réalisatrice. Elle nous parlera aussi de Samouni Road, un documentaire qui a été primé à Cannes. Quant à moi, eh bien, je vous parlerai d'Un homme pressé, dernier film d'Hervé Mimran, c'est une comédie, et puis eh bien, d'un autre film qui a remporté un prix à Cannes, celui du scénario, c'est Heureux comme Lazaro d'Alice Rohrwacher. On écoutera aussi la réalisatrice, mais bien pour l'instant, on va se demander si c'est l'humanité contre la bureaucratie qu'on voit dans Kursk.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Des survivants?
Capitaine! Qu'est-ce qui se passe à bord du Kursk?
Il est loin le temps où Thomas Vinterberg, en vie d'un garnement aux côtés de l'incorrigible Lars von Trier, signait une charte qui allait faire couler de l'encre le dogme. Alors une vaste blague quand on y pense, hein, mais qui permit néanmoins aux Danois de réaliser son meilleur film à ce jour, Festen, portrait au vitriol d'une famille réunie lors d'un repas se transformant en véritable jeune massacre. Alors après ce coup d'éclat, Vinterberg prit ses distances avec Zanthropa et entama alors une carrière en dents de scie, hein, alternant des réussites mineures comme La Chasse et des ratages comme son incursion dans la science-fiction avec It's All About Love ou encore le nullissime Loin de la foule déchaînée. Alors il n'y avait qu'un pas pour que cet ex-auteur exigeant se transforme en artisan classique, en faiseur européen. Alors c'est chose faite aujourd'hui avec Kursk, thriller catastrophe où presque toute ambition personnelle semble abandonnée. En soi, ce n'est pas grave, hein. Au moins on peut espérer un bon film de genre enlevé et émouvant. Mais de passer quand même de Von Trier à Besson, hein, via Europacorp, ça laisse un peu perplexe. Alors le film s'inspire d'un fait réel en relatant le naufrage du sous-marin nucléaire K-141 Kursk, survenu en mer des Barents le 12 août 2000. À bord du navire en perdition, 23 marins se battent pour survivre, tandis que les familles luttent contre une bureaucratie bornée qui ne cesse de compromettre l'espoir de les sauver. Alors l'affaire avait fait grand bruit à l'époque, hein, étayant alors la thèse du complot, incriminant une mauvaise gestion des Russes et notamment une ingérence de la part du KGB. D'ailleurs, le KGB n'apparaît pas dans le film. Hein. Je pense qu'apparemment, il y a eu des petits soucis au montage et ils ont enlevé tout ce qui avait un rapport avec le Kremlin.
Nous avons tous les moyens requis pour ramener des hommes à la surface. Acceptez notre aide. Si votre aide paraît utile, nous vous le dirons.
Ils ont combien d'air en réserve? Est-ce qu'on sait s'il y a des blessés?
On lui a donné notre enfant, tout ça pourquoi? Il meurt pour rien!
Je voulais t'en offrir plus. Pour nous deux. Tu es mon éternité.
Alors Kursk, écrit par le scénariste de Il faut sauver le soldat Ryan, hein, pouvait susciter quelques attentes en matière de thriller politique, bousculant la thèse officielle, surtout de la part de Thomas Vinterberg, qui malgré tout reste un citoyen engagé à défaut d'être un grand cinéaste. Alors l'idée que le Kremlin aurait tout fait pour laisser mourir les marins est toujours présente, on va dire, en filigrane, hein, même si le Kremlin n'est pas cité, même si les auteurs prennent bien soin de ne pas mettre tous les militaires russes dans le même sac, donnant aussi le beau rôle à la navire anglaise, représentée par un très digne capitaine, incarné par un Colin Firth impeccable. Alors l'ouverture débute par une séquence de mariage plutôt réussie et très référentielle puisqu'elle évoque le voyage au bout de l'enfer. Les marins se préparent à partir et se retrouvent en famille une dernière fois. D'ailleurs, le format est étrangement... Alors je pense que c'est du 1.66 et dès que en fait, nos valeureux marins se retrouvent dans le sous-marin, l'écran s'élargit et ça devient du scope avant de rétrécir vers la fin à nouveau. Mais bon, je ne sais pas trop pourquoi. Je cherchais un sens, mais j'ai pas. Surtout que le côté claustrophobique aurait bien été pour un format finalement.
Oui, c'est amusé à élargir au contraire.
Oui, mais oui, c'est une coquetterie, je dirais. Hein. Alors sinon, le film s'en tient au cahier des charges et ressemble à un téléfilm de luxe où tout le monde s'exprime en anglais, coproduction européenne oblige, ce qui nuit à la crédibilité du récit. Alors rien de déshonorant, mais on reste à la surface et même un petit peu plus bas, notamment en ce qui concerne les relations humaines, catalogue de personnages stéréotypé, archétype du film catastrophe qui s'avère quand même l'un des genres, ça c'est personnel à mon avis, les plus ennuyeux du monde, car nulle surprise ne vient enrayer la mécanique, jusqu'à l'épilogue dramatique qui ne suscite aucune empathie. Alors étayé de quelques séquences impressionnantes quand même et porté par un casting luxueux, Mathias Schoenaert en valeureux marin, Léa Seydoux en épouse enceinte éplorée, moyennement convaincante, et même Max von Sydow en militaire russe grabataire incarnant la vieille Russie. Alors cette adaptation d'un roman de Robert Moore s'avère un thriller claustrophobique assez anodin, gentiment critique envers la société russe, mais qui ne laissera guère de traces. La construction maladroite du film qui alterne constamment les réactions indignées des familles qui cherchent à comprendre ce qui se passe et les séquences de survie à l'intérieur du sous-marin provoque un ennui assez tenace. Alors Vinterberg, à mon avis, il est prêt pour Hollywood. On pourrait même le retrouver, je ne sais pas, derrière un Marvel ou un James Bond. Je pense qu'il peut, plus ça va et plus se transforme en, on dirait, en faiseur, un yes man, alors européen pour le moment, mais je ne serais pas surpris de le retrouver derrière une grosse production hollywoodienne.
Kursk est sur les écrans depuis le 7 novembre. Un autre film qui est aussi bien sur les écrans depuis le 7 novembre, c'est Un amour impossible de Catherine Corsini. Après l'excellent La belle saison et ses amours homosexuels sur fond de mouvement féministe, la réalisatrice adapte le roman de Christine Angot. La réalisatrice, c'est bien, affirme que pour son adaptation, elle a gardé la netteté des coupes, des ellipses, des situations. C'est ce qu'on va voir avec Marine et on écoutera ensuite la réalisatrice.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Catherine Corsini adapte ici le livre autobiographique éponyme de Christine Angot dans lequel elle raconte la rencontre de ses parents. Sa mère Rachel, jeune femme modeste et toujours célibataire passé 25 ans, rencontre Philippe, jeune homme bien né dans les années 50 qui l'éblouit par sa culture et son élégance. Mais Philippe refuse de l'épouser en raison de son milieu social et Rachel, enceinte de lui, se résout à élever seule sa fille malgré tout. Elle ne souhaite qu'une chose, qu'il reconnaisse sa fille et accepte de la voir de temps à autre. Les années passent sans que Rachel réalise que Philippe est pervers, manipulateur et prêt à tout pour détruire le fragile équilibre familial qu'elle tente de créer avec sa fille. Prêt à tout et même à l'impensable puisqu'il ira jusqu'à l'inceste. Un amour impossible est une fresque qui s'étire sur 50 ans avec ce que cela suppose de longueur, parfois de lenteur aussi. Le scénario est le point fort du film, qui commence comme une romance, vire au drame social puis au drame tout court, prenant un virage brutal et inattendu lors de sa dernière partie. Catherine Corsini réussit pourtant à en faire un film solaire, baignant dans la même lumière douce que son précédent film, La belle saison, traversé par la même envie de filmer la nature et surtout porté à bout de bras par l'éblouissante Virginie Efira, qui trouve ici le plus beau rôle de sa carrière, en mère courage et pourtant impuissante devant le drame qui se joue. À ses côtés, Nils Schneider, en pervers narcissique, est excellent aussi, dans un personnage pourtant peu aimable et très complexe. Alors Catherine Corsini sait filmer les relations humaines, les non-dits, les tourments, sans tomber dans le pathos. Malheureusement, elle n'évite pas une certaine monotonie, parfois. On écoute justement Catherine Corsini au micro de Cinérama.
Mon histoire, c'est l'histoire.
Il était rentré dans sa vie. Elle ne le voyait pas en sortir.
Je t'aime, Rachel. Tu veux te marier?
Je sais pas, et toi?
Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux.
Cette femme réussit à élever cet enfant qui va devenir quelqu'un et qui aussi va arriver à trouver une réconciliation malgré le chaos dans lequel elles sont emportées toutes les deux, malgré cette chose vraiment terrible, c'est-à-dire que par la pensée, par la parole, par l'écrit, elle va réussir à donner une explication qui est son explication, mais qui, dans tous les cas, permet de sortir par le haut parce que permet aussi de sentir que ce n'est pas que contre elle. Quand il abuse la fille, il veut aussi faire mal à la mère et que aussi c'est vraiment ce rapport de classe de cet homme qui est complètement, j'allais dire, pervers, quoi, d'une perversion et d'un cynisme terrible.
C'est l'histoire d'un amour éternel et banal.
Tu es enceinte, Rachel, mais ça ne change rien. Tu sais très bien que je ne t'y penserais pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent.
Celle où l'on se dit adieu.
Ce qui en effet assez, assez intéressant dans le film, c'est que ça commence sur une histoire d'amour passionnel entre un homme et une femme, et le sujet finalement se déporte ensuite, ça devient l'amour filial un peu, enfin la relation mère-fille en tout cas, le sujet.
Et c'est pour ça qu'il y a un côté presque saga dans le film, que le film c'est un de mes premiers, enfin c'est le seul film que j'ai fait d'ailleurs qui dure 2h10, mes films en général sont assez courts et assez tendus, voilà, alors que là j'avais envie aussi de déplier le temps, parce que c'est aussi une histoire du temps, de temps qui passe, le temps aussi comme cette dernière phrase à la fin, la phrase de Proust, c'est-à-dire que le temps aussi qui fait qu'on on vit des choses terribles, mais en même temps le chagrin ça s'estompe, ça disparaît. C'est aussi tout ce rapport à ces femmes qui grandissent en même temps. Et je tenais beaucoup à ce que le début soit comme une romance, et puis les choses vont se transformer. Sauf que non, il n'est pas du tout à l'endroit où elle pense qu'il va être.
J'aimerais bien que tu reconnaisses Chantal. Je ne demande pas d'argent, ça ne m'intéresse pas. Votre fils Philippe et moi avons un bébé de 6 mois.
Oui, je sais.
Et je voudrais pouvoir lui donner des nouvelles de sa fille.
Allez, t'as pas peur que ça te fasse mal de le revoir?
Non, puis c'est pour Chantal, je voudrais qu'il la reconnaisse.
Je ne vais pas reconnaître Chantal. Je me suis mariée.
Elle est trop dure, la vie. Elle est trop dure. J'élève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Mais quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle.
Ça fait longtemps.
C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end.
Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris? On n'est pas une famille. Deux personnes dans une maison, c'est pas une famille!
Comme cet enfant naît de cet amour et qu'elle elle continue à être persuadée que c'est une histoire d'amour, elle élève cet enfant dans cette image de ce père idéalisé et elle construit sa vie autour d'elle et elle évolue, etc. Et puis après, il y a la partie de la vieillesse, il y a la partie de la confrontation avec sa fille où tout d'un coup, la relation devient aussi impossible entre elles deux pour qu'à la fin, elles se reconstruisent.
Et nous, tu sais ce que c'est?
C'est une passion.
Non, c'est une rencontre inévitable.
C'est l'histoire.
On était très content d'écouter Catherine Corsini, Un amour impossible, dans Cinérama. Et maintenant, eh bien, on passe à un tout autre film. C'est celui d'Hervé Mimran, Un homme pressé, quand l'AVC fait réfléchir un homme sur le temps qui passe.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Bonjour, monsieur Mapler.
Tu dis jamais merci, toi?
Jamais. Il y a deux erreurs. On est en retard.
Vous allez vous reposer.
Je me reposerai quand je serai mort.
Monsieur? Eh oh, monsieur!
Alain, Fabrice Lucchini est un homme d'affaires, ce genre d'individu qui a fait une grande école d'ingénieur et qui, suivant l'air du temps, conçoit de nouveaux objets. Ici, une voiture premium 100% électrique. Un homme qui a une vision de la société et de l'économie, mais qui n'est pas vraiment à l'écoute de son corps. Alors on ne sait pas s'il a des loisirs. Et sa famille se résume à sa fille, qu'il voit peu, alors qu'elle habite sous son toit. Ainsi, acharné de travail, Alain passe complètement à côté d'alertes sérieuses, hein, indiquant qu'il faut vraiment se reposer. Et patatras, le voilà qui fait un AVC, une maladie bien choisie, hein, car elle aussi est dans l'air du temps. Le voilà cloué au lit.
Mademoiselle, ça va? Mon père a fait un AVC.
Bah écoutez, c'est pas forcément grave.
La samba de la nuit verte. Pour la nuit verte, la samba, quand la...
Il débloque complètement.
Changement de programme hein, pour lui. Fini les réunions et les repas à plus d'heures. Bienvenue dans un monde où tout est ralenti et confus. Car conséquence de l'AVC, Alain a perdu le langage, ou plutôt, il lui reste les mots, mais plus l'ordre du sujet, verbe complément, et le nom et la chose sont rarement en adéquation. Alors quand il pense cheval, il va dire chenal. Quand il pense bonjour, il va dire au revoir. Ou troquer le mot radio, par exemple, pour radis. Et j'en passe. Résultat, il pense qu'il est intelligible alors qu'il dit n'importe quoi.
C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées.
On va faire quelques tests.
Héliotrope, mardi, mercanti.
Bon, rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse.
Oh, je te lèche. Faut que j'aille voir la psychopathe.
Parti.
Quand vous vous souvenez pas d'un mot, essayez par un autre moyen. Un cheval qui court, on dit qu'il...
Salope.
Presque. Vous vous sentez comment aujourd'hui?
Je veux partir d'ici.
Bonjour monsieur, vous avez l'air en pleine forme.
Au revoir madame.
C'est le seul ravissement du film, hein, parce qu'on connaît le lien de Fabrice Luchini avec les mots et la langue française dans ses spectacles Fleuve. Le comédien était réputé nous emporter dans un déluge de mots et de sens. Là, on est plutôt du côté des expérimentations sur la langue des années 60, type Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, ou la pièce de Jean Tardieu, Un mot pour l'autre, où les comédiens parlent un langage transformé mais pourtant intelligible par les spectateurs, ou bien encore dans la littérature jeunesse, PEF, avec Le prince des mots tordus.
Vous faites tout pour que je vous aide, vous, et une fois que vous avez ce que vous voulez, plus de nouvelles. Ça fait 3 ans, moi, que je me tape des études pour qu'un jour tu t'intéresses un tout petit peu à moi. On sert pas des gens comme ça, ça se fait pas.
Sans poule, je suis touffu. J'ai besoin d'un devis féminin.
Non, mais c'est pas possible. Mais vous êtes sérieux, là?
Mais passé cet exercice dans lequel Luchini excelle, quoique la prise de son ne lui rende pas bien hommage, le scénario est trop convenu pour être surprenant. Le richissime Alain, capitaine d'industrie, a pour l'instant la confiance de son entreprise. Alors il arrive à débaucher ce qu'il appelle une psychopathe, mais qui n'est autre qu'une orthophoniste, interprétée par Léla Becti, qui fait ce qu'elle peut. Mais là, on n'y croit pas une seule seconde, on a l'impression qu'elle n'a qu'un seul client. Avec ça, un infirmier qui n'a que ça à faire lui fait du gringue tout en poussant le chariot d'Alain. C'est bien connu. Le réalisateur Hervé Mimran a voulu étoffer son récit qui devient paresseux. À l'absence de relation entre Alain et sa fille, eh bien le réalisateur, qui est également scénariste, a voulu faire correspondre une histoire d'adoption avec beaucoup d'amour, ce qui n'empêche pas l'orthophoniste, puisque c'est elle qui est concernée, eh bien de rechercher sa mère biologique. Mais l'ensemble est d'une rigidité sans faille. Au début, cet homme est tout puissant, arrogant, et petit à petit, eh bien après avoir perdu tous ses moyens, il fait un chemin vers la rédemption. Il commence à dire merci, y compris à son chauffeur dévoué qui se fait lourder. Alors l'égoïsme, l'individualisme va faire place à l'introspection, l'humanité et un regard neuf sur l'existence. Rien de bien nouveau ni de bien filmé. Le seul plaisir réside vraiment dans l'interprétation avec le discours incohérent de Luchini, bon, qui, finalement, dans l'écriture, donne une certaine poésie. Pour le reste, on peut passer son chemin et préférer les deux comédies du moment, Le Grand Bain et surtout En Liberté.
Merci beaucoup.
Monsieur ?
Un thé ? Et un FK.
Ok, frère.
Alors là, je ne sais pas si on a très bien entendu, je vous parlais du son qui n'était pas terrible. Le type parle tellement à côté de la plaque, en fait, alors il fait du verlan et il devient pote avec un serveur noir qui lui parle comme un frère. Enfin voilà, on est un peu dans ce registre-là. À noter que c'est le réalisateur de Tout ce qui brille et de New York qu'il avait co-réalisé avec Géraldine Nakache. Voilà. Mais là, il était tout seul et il s'en sort moins bien, en tout cas, que dans Tout ce qui brille. On change complètement d'univers, puisqu'on va plonger à Gaza en mêlant images de reconstitution de guerre, images d'animation et images documentaires avec Sam Unirode.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Auréolé à Cannes de la prestigieuse récompense de l'Œil d'Or qui honore le meilleur documentaire, toute compétition confondue, Sam Unirode de Stefano Savona est un documentaire atypique et réussi sur la situation actuelle de Gaza, filmé au plus près de l'humain. Stefano Savona s'est d'abord rendu à Gaza au cours de l'opération dite du plomb durci, une opération des forces israéliennes de vaste ampleur en 2008 dont le but était de frapper les infrastructures et les rampes de lancement de roquettes du Hamas. C'est sur place qu'il a rencontré une famille de paysans, les Samouni, qui avaient jusque-là été épargnés par le conflit israélo-palestinien. Stefano Savona décide de filmer cette famille, mais un an après sa première venue, afin d'avoir le recul nécessaire pour comprendre leur histoire et surtout afin de les filmer au moment où la vie commence à reprendre son cours comme elle le peut. La particularité de Sam Unirode, c'est sa volonté de recréer des flashbacks, de redonner vie aux souvenirs qui sont racontés à travers des images animées créées par Simone Massy. Ce ne sont pas des dessins à proprement parler, mais des aplats de noir qui sont ensuite grattés pour créer une animation mouvante en noir et blanc, très réussie, ce qui permet de montrer ce qui n'a pu être filmé. C'est également une façon de transcender l'horreur des bombardements, des meurtres et de l'occupation israélienne et d'alléger un récit déjà bien sombre en intercalant ces passages animés entre les scènes filmées en prise de vue réelle.
Oh
Samouni Rhode suit surtout la petite fille de la famille, montrant que la violence est partout, même au sein de la famille. Elle est notamment le souffre-douleur de ses frères qui ont déjà bien intégré la notion de patriarcat. Alors Samouni Rhode n'est pas une partie de plaisir, hein, c'est un film dur dans lequel nulle espérance ne semble poindre dans un premier temps, à l'image du sycomore déraciné, l'arbre qui trônait au centre du village et au pied duquel avaient lieu les fêtes. L'espoir et la vie même semblent avoir quitté ses habitants. Mais dans un second temps, le film souligne l'émergence d'une vie nouvelle, d'un avenir un peu meilleur et s'avère finalement une belle ode à l'optimisme et à la résilience.
Samouni Rhode de Stefano Savona est sur les écrans depuis le 7 novembre, tout comme Heureux comme Lazaro, qui eh bien, lui aussi a été primé à Cannes. C'est notre petit passage, palmarès de Cannes.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Si lui peut être heureux ou triste, le bonheur de Lazaro est de voir les autres heureux. C'est donc un être miraculé qu'il nous est donné de voir dans le nouveau film d'Alice Rohrwacker, Heureux comme Lazaro, prix du scénario à Cannes cette année. Eh bien, cette fable poétique qui flirte avec la comédie entre Pasolini, Fellini et Torrescola, avec moins de style, là j'ai décidé de sortir les grands noms, eh bien ce film a de quoi ravir le spectateur. La réalisatrice nous plonge dans un hameau, l'Inviolata, où vivent une cinquantaine de paysans, des hommes et des femmes qui se tuent à la tâche, et Lazaro beaucoup plus que les autres, jamais fatigué et toujours prêt à rendre service. À quelle époque sommes-nous ? Eh bien, c'est difficile de le dire, mais ce qu'on comprend assez vite, c'est que ces paysans sont semblables à des esclaves ou des serfs et qu'ils n'ont jamais connu la Révolution. Retenus dans l'ignorance par la marquise, loin de toute ville, ils ont beau travailler, eh bien, ils doivent toujours plus d'argent à la marquise. Elle, eh bien, elle voit les êtres humains comme des bêtes. Libérer les hommes signifierait les rendre conscients de leur statut d'esclave et les condamnerait donc à la souffrance. Cet ordre tient bon, alors jusqu'au moment où la révolte adolescente menée par son fils, eh bien, va tout faire voler en éclats. Le fiston va précipiter les paysans dans la modernité à laquelle, eh bien, ils ne sont pas forcément préparés. Une cruauté en remplace une autre. Alors même si Lazaro ne fera pas partie de ce voyage, et je ne vais pas dévoiler pourquoi, on le verra toujours aussi jeune dans la deuxième partie du film, alors que tout le monde a vieilli et se retrouve en ville. Le conte tient bon pour Alice Rohrwacker, qui, si elle parle de notre monde, eh bien, de l'attrait des villes, de la paupérisation qui s'ensuit, des inégalités sociales entretenues, n'a aucune tendance à surligner la critique, préférant la dimension métaphorique et la poésie au manifeste. D'ailleurs, Heureux comme Lazaro n'est pas un film bavard et conserve une certaine légèreté avec une image pauvre. Il a été tourné en 16 mm, un cadre discret mais des situations étonnantes, raison pour laquelle sûrement eh bien, il a empoché le prix du scénario à Cannes. Car il faut une écriture pointue, soignée, affûtée, une volonté tenace et une envie de cinéma pour faire adhérer le spectateur à pareille histoire. On écoute Alice Rohrwacker lorsqu'elle était à Cannes, où nous étions également. Elle nous parle de la mise en scène d'une histoire classique, celle d'un monde qui ne change pas.
Strampalata è una storia classica.
C'est une histoire tout à fait classique.
Muore e risorge.
Le bonheur qui meurt et qui réapparaît.
Volevo raccontare un mondo che si trasforma.
Je voulais raconter un monde qui se transforme, qui change et qui en même temps reste identique.
L'essere umano è sempre portato.
Reste le même, fidèle à lui-même. L'être humain est ainsi porté à exploiter les autres êtres humains. Je voulais raconter une tragédie d'une façon plus légère, plus libre, en y insufflant le plus de vie possible, avec les acteurs, avec les non-acteurs, et tous ceux qui ont participé au film m'ont beaucoup aidé.
Mais magari lui non sfrutta nessuno.
Questo proprio non è possibile.
C'est une fable très réaliste, je dirais. C'est un film qui a ses racines dans la réalité, mais c'est une fable parce que parallèlement, on a le désir de raconter le destin d'un personnage au fil du temps. Il y a une division du monde qui ressemble à une fable, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Mais tout cela est vu à travers le regard d'une personne qui ne sait pas s'il y a des bons et s'il y a des méchants, qui ne sait pas non plus qu'il y a cette division entre bons et méchants. Et ce personnage, c'est Lazzaro. C'est un film religieux, je dirais, mais une religion préhistorique. Ce n'est pas un film qui, pour moi, cadre avec n'importe quelle religion. Même si on y fait quelques références, car la marquise éduque les enfants des paysans au catholicisme. Mais avant tout, c'est un film spirituel dans le sens où c'est la religion de l'être humain. Et donc, ce film essaie d'unir avec beaucoup de liberté, la plus grande liberté possible, la fable et la réalité.
C'était Alice Rohrwacker, réalisatrice de Heureux comme Lazzaro. Je pense que vous l'avez compris, c'était le film sans doute le plus décalé de cette émission. En tout cas, une fable sociale et réaliste. Et c'est aux antipodes d'un film avec lequel nous allons terminer, Chacun pour tous, de Vianney Le Basque, qui nous emmène à Sydney avec une équipe d'handicapés mentaux.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
On va travailler pour les services secrets ou pas?
Non, pour l'équipe nationale des déficients mentaux.
Moi j'en ai connu des plans merdiques. Mais alors là,
il y aura une prime pour chaque victoire.
Si on peut sauver une fédération d'handicapés,
bah ouais.
On dirait qu'il est handicapé d'ailleurs, celui qui parle, et il ne l'est pas d'ailleurs.
Mais oui, non, mais il a une diction caractéristique dans le cinéma français.
Alors le scénario de Chacun pour tous s'inspire d'un fait divers pour le moins hallucinant. L'Espagne a envoyé aux Jeux paralympiques de 2000 à Sydney de faux handicapés dans l'équipe de basket de déficients mentaux. Le président de la Fédération espagnole de sport pour les déficients mentaux a donc été condamné par la justice quelques années plus tard d'ailleurs, et ce qui ne fut pas le cas des joueurs qui ont tous été relaxés. Ce qui paraît un peu curieux, mais bon. Alors, Vianney Le Basque, après Les Petits Princes, sorti en 2013, situé aussi dans le milieu du sport, du football, poursuit logiquement donc cette veine, en s'emparant de ce sujet à sensation et pour tout dire assez casse-gueule. Il emprunte par ailleurs la voie conventionnelle du feel-good movie, transposant donc l'histoire en France. Martin, coach de l'équipe française de basketteurs, déficients mentaux, est au pied du mur. Alors en pleine préparation de ses jeux, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber, donc refusant de perdre la subvention. Voilà, c'est un peu la raison avancée. Alors c'est la même d'ailleurs dans le fait divers. Alors cette subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition, ce qui explique la fraude liée à une défaillance du système. Il complète son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pipo, deux trentenaires désœuvrés. Alors tous les efforts du réalisateur s'orientent vers une seule optique, ne heurter personne, ne pas faire de vagues. En ce sens, la mission est accomplie. Chacun pour tous est une comédie consensuelle sur la tolérance, l'acceptation de l'autre dans sa différence. On a l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois au cinéma, verrouillant un pitch de départ excitant, évacuant alors le vrai sujet. Qu'est-ce qui nous sépare réellement des attardés mentaux? Quelle est la frontière entre la normalité et la normalité? Un traitement de fond aurait été bienvenu, quitte à provoquer certains troubles, voire choquer notre bonne conscience. Alors on rêve un instant ce que Lars von Trier aurait pu tirer d'un tel film, où des individus pour la paille du gain, car au départ il s'agit bien de cela, acceptent de jouer ce qu'on peut appeler entre parenthèses les débiles légers, qui est un terme quand même pas médico-social. Alors hélas, le film croule sous des kilomètres de bons sentiments, n'effleurant qu'à de rares instants la thématique profonde du film. C'est à travers un personnage secondaire, Michel, que le film aurait pu trouver sa singularité. En effet, ce jeune homme normal, alors un peu trop en arrière-plan le personnage malgré tout, présente des troubles assez étranges. Il joue tellement bien son rôle qu'il semble lui-même pas tout à fait équilibré, légèrement en retard. Alors hélas, il est rapidement sacrifié à l'autel de la mécanique de la comédie gentillette, parfois amusante mais d'une timidité assez pénible. La peur de sombrer dans la vulgarité semble paralyser les auteurs qui s'échinent à faire tout ce qu'ils peuvent pour rester bienveillants. Sans surprise, le sport n'est pas filmé, ou mal, à travers un montage clip et démonstratif, succession de paniers et de scores inscrits à l'écran. L'enjeu n'est certes pas là, mais à quoi ça sert de braquer une caméra sur des sportifs en action, si ce n'est pour nous rejouer les sempiternels mêmes clichés vus dans tous les films de ce genre? Alors les personnages aussi ne sont que des sympathiques adolescents, attachants en surface, mais manquant singulièrement de profondeur. Daroussin caboutine à outrance dans le rôle du coach, il ne parvient pas à sauver son personnage. Alors au final, on a quand même l'impression de s'être fait arnaquer par un film qui excuse un peu tout le monde, alors qu'il s'agit quand même d'une fraude à l'échelle nationale, hein, assez inexcusable, hein, ce qui finit même par rendre antipathique cette œuvrette qui s'évertue au contraire à forcer une sympathie factice. Quelques situations cocasses et des dialogues amusants sauvent néanmoins le film du désastre, mais c'est bien peu.
Bon, eh ben on le redit, il faut aller voir deux comédies en ce moment, c'est plutôt Le Grand Bain, mais il y a déjà plus de 2 millions de spectateurs qui se sont déplacés, et puis En Liberté, qui a fait un bon démarrage avec à peu près 250 000 spectateurs, mais il en faudrait aller 4 fois plus.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible !
Ah, si, je vous assure !
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, une seule interview, celle de Mohamed Benatia, je vous parlerai, moi, de Carmen et Lola.
Et moi, High Life de Claire Denis et d'un documentaire de Ritipan, La France est notre patrie.
On se retrouve la semaine prochaine.